Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de notre agglomération et de ses alentours. Chaque semaine, vous pouvez découvrir les temps forts de Montpellier et ses environs, que ce soit sur un plan économique, politique, social et culturel. Toutes les thématiques qui touchent votre quotidien pourront être abordées. Et ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui, en nous intéressant à divers événements à venir, nous allons joindre l'utile à l'agréable grâce à la présence dans nos studios d'une fédération que nous avons déjà reçu en mai dernier. C'était pour un tout autre programme dans notre émission qui est diffusée chaque deuxième vendredi du mois de 11h à midi, le Handi Plus. Le Handi Plus, un programme qui permet de faire connaître les acteurs, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, des différentes structures existantes à Montpellier et son agglomération dans le domaine du handicap. Avant de passer la parole à mes chers invités dans notre magazine, sachez que dans notre magazine Le Handi Plus, je rappelle que sans cesse des chiffres qui, je l'espère, pourront vous faire prendre conscience ô combien la question du handicap en France est quand même mise de côté, au point que pour une frange de la population, le handicap reste un sujet peu ou pas préoccupant et que ça reste un dossier qui passe après tant d'autres. Et pourtant, le handicap affecte 80 millions de personnes en Europe, 650 millions dans le monde entier, voire 1 milliard de personnes selon le rapport mondial sur le handicap de l'OMS et de la Banque mondiale. En somme, la prévalence du handicap est estimée à 15% de la population mondiale. En France, selon l'INSEE, 9 600 000 personnes sont en situation de handicap, tout âge confondu. Ça va des enfants aux adolescents, aux adultes, jusqu'aux personnes du troisième âge. Alors, j'estime que ces chiffres méritent amplement d'être communiqués pour interpeller tous ceux qui sont en notre compagnie et se rendre compte ô combien la question du handicap est bien souvent mise de côté et qu'elle a toute son importance et sa place dans notre société, bien sûr. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans Montpellier ma ville une fédération dans nos studios. Sont parmi nous, honneur aux dames, hein, vous ne m'en voudrez pas, Bertrand Vérine.
Non, bien sûr, bonjour.
Alors, il y a Claudie Gasque. Claudie Gasque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adhérente de cette fédération. À ses côtés, j'ai également le plaisir de recevoir Chantal Bordenave.
Bonjour.
Chantal Bordenave, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de la commission communication de cette même fédération. Et bien évidemment, j'ai le même plaisir de recevoir le président de cette fédération qui n'est autre que Bertrand Vérine. Bertrand Vérine, bonjour, comment allez-vous?
Mais très bien, merci. Depuis le mois de mai dernier, donc vous nous aviez fait l'amitié de nous recevoir déjà.
Avec grand plaisir. Alors, depuis que nous avons démarré donc ce rendez-vous, j'ai dû répéter trois ou quatre reprises, fédération. Il s'agit de la FAF-LR, Fédération des aveugles et amblyopes de France en Languedoc-Roussillon. Alors, avant toute chose, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil.
Mais on vous en prie.
Et aujourd'hui, nous allons parler des différents événements que vous êtes encore en train d'organiser, je suppose, ou du moins vous peaufinez les derniers réglages pour que tout puisse se passer comme il faut, afin que le public attendu puisse être satisfait, n'est-ce pas ?
Absolument.
Absolument.
Et on est sur la brèche.
Ah, je comprends. Alors, si vous permettez, j'aimerais que l'on commence par cette exposition qui va avoir lieu prochainement, une exposition photo qui s'intitule « Un autre regard ». C'est un jeu de mots avec le département du Gard, hein, parce que c'est un événement créé par la CEDV 30, Comité d'entente des associations des personnes déficientes visuelles, avec la participation, bien sûr, de la FAF du Gard et bien d'autres structures qui se sont jointes à ce projet. N'est-ce pas, Bertrand Vérine ?
Absolument. Donc, notre fédération nationale des aveugles de France est représentée dans la région par différentes structures. Hein. Donc, il y en a qui travaillent à la représentation citoyenne des personnes. C'est le cas de la FAF Gard-Lozère. Il y en a une qui est spécialisée dans le financement de la recherche médicale. C'est l'association Information Recherche Rétinite Pigmentaire. Il y en a une qui gère la clinique de rééducation Beau Soleil à Nîmes. Et puis, il y a la FAF-LR que je préside, qui administre des services d'accompagnement dans le milieu ordinaire de vie, l'école, l'emploi, le quartier. Du coup, ces quatre associations ont proposé à des photographes amateurs et professionnels d'évoquer les différents aspects du quotidien d'une personne déficiente visuelle à travers 40 photos. Donc il y en a 10 qui concernent le retour à l'autonomie grâce à la réadaptation fonctionnelle. Ça, c'est du côté de la clinique Beau Soleil et de l'association qui s'appelle Aramav. Il y en a 10 qui concernent l'intégration de l'enfant en milieu ordinaire. Ça, c'est donc la FAFELER et son service d'intégration scolaire. 10 qui représentent l'accès aux loisirs dans le milieu associatif, ça ce sont nos amis de la FAF Gare-Lozère, et 10 qui concernent la vie quotidienne d'une femme non-voyante, ça c'est l'association Information Recherche Rétinite Pigmentaire. Et donc ces 40 photos font le tour du Gard depuis un an, avec un grand succès dans les villes évidemment, Nîmes-Alès, mais aussi les communes plus petites. Et pour la première fois, l'exposition va être montrée dans l'Hérault à partir du mercredi 12 novembre. À l'espace Latara, donc à la médiathèque de Latte.
De Latte, très bien. Alors, ma première curiosité est de... Alors, je vais me tourner vers vous, hein, Claudie Gasque. Alors, ma première curiosité est de vous poser cette question. Alors, une expo photo pour des personnes avec une déficience visuelle, et puis surtout des photos prises par des personnes qui ont une déficience visuelle. Comment est-ce possible? Vous êtes adhérente et malvoyante, vous pratiquez vous-même et vous faites pratiquer la photo à des personnes qui ont une déficience visuelle. Ça va faire un peu cliché, ma question, mais comment est-ce possible? Éclairez-nous à ce sujet.
Eh bien, c'est tout à fait possible. Au départ, quand on a lancé ce projet, on s'est dit c'est peut-être un projet un peu fou, peut-être ça ne marchera pas, mais il faut essayer. Et nous avons essayé, donc nous avons dans notre groupe, cette année donc, nous avons 3 personnes non-voyantes qui ont été intéressées, nous avons 5 personnes malvoyantes. Et ces personnes-là, on leur a demandé qu'est-ce qu'elles recherchaient pour faire de la photo. Elles ont voulu retrouver le plaisir de se servir de l'appareil de leur appareil photo, comme elles faisaient quand elles voyaient un petit peu mieux, enfin il y a des années en arrière. Et donc on a, avec la personne qui fait, disons, le côté, qui pratique le côté technique de la photo, on a réfléchi à d'autres solutions que mettre en avant le visuel. Et on s'est aperçu que les personnes qui sont déficientes visuelles mettent, eux, en avant automatiquement le ressenti, l'écoute, les repères, l'espace. Et en se servant de ces moyens-là, on arrive à leur présenter soit les paysages, soit les objets, soit des tableaux dans des musées ou des lieux publics, etc. On arrive à leur faire ressentir ce qu'il y a devant eux. Et on arrive à leur faire faire des photos par ces moyens-là.
Et le rendu donc de ces photos.
Et le rendu, ben il est étonnant, vraiment.
Ah oui,
il est vraiment étonnant. On a été très surpris, notamment par les personnes non voyantes. Elles arrivent par ce qu'elles écoutent dans le descriptif qu'on leur donne derrière elles. Elles arrivent à situer ce qu'elles ont devant elles, à l'imaginer et à faire la photo. Bon, il y a quand même des bénévoles à l'arrière qui surveillent que ce soit à peu près correctement cadré, mais à part ça, c'est ces personnes-là qui font vraiment leurs photos.
D'accord, donc ouais, c'est vraiment elles qui ont l'appareil en main et qui, à un moment donné, sentent que, hop, il faut déclencher donc le...
Tout à fait. Les bénévoles, on leur demande de ne pas toucher à l'appareil photo, du tout.
D'accord.
Voilà.
Alors, vous vous rendez dans les écoles, hein, pour faire découvrir aux plus jeunes votre art, votre savoir-faire.
Oui.
Comment se passe cette rencontre? Vous les sentez réceptifs à ce que vous faites, à ce que vous êtes venus partager avec eux?
Alors là, nous faisons de la sensibilisation, dans les écoles, pardon. Nous allons voir des classes d'école élémentaire ou d'école primaire. Et nous rencontrons les enfants et on s'est aperçu que les enfants sont très, très réceptifs à l'handicap. Ils y mettent beaucoup de cœur quand on leur explique ce que c'est que la déficience visuelle. Et petit à petit, ils s'intègrent dans les ateliers très facilement et ils comprennent nos difficultés. Et alors après, on a un flot de questions où on est obligé d'arrêter souvent, manque de temps. Mais ils sont très curieux de comprendre ce que nous vivons, en fait.
Oui, d'ailleurs, il pourrait donner une leçon à certains adultes.
Mais on espère un petit peu, en fait, que ça remonte un peu vers les parents, vers les adultes qui les entourent.
Et puis, c'est la génération de demain. Voilà, donc, voilà, c'est très bien qu'ils soient imprégnés déjà depuis le plus jeune âge au handicap.
Et
les enseignants, vous les sentez, ils sont friands d'en savoir plus à ce sujet. Ils participent pleinement lors de ces rencontres.
Ah oui, les enseignants sont vraiment les enseignants qui nous demandent d'aller les voir. Ils sont très participants. Ils veulent faire des ateliers avec des enfants. Finalement, ils ont plus de difficultés que les enfants dans les ateliers.
D'accord.
Mais ils sont très curieux de participer totalement et de prendre conscience de ce qui est notre vie à nous au quotidien, quoi, en fait.
Bon, c'est une bonne chose. Chantal Bordenave, alors pour organiser toutes ces rencontres, ces événements, il faut des personnes qui, comme vous, sont en charge de la communication. Vous êtes à la commission communication de la FAF-LR et vous êtes en charge d'organiser des événements accessibles aux personnes déficientes visuelles. Une charge qui n'est pas des moindres, car c'est grâce à votre savoir-faire que cela puisse être organisé et vous devez, je suppose, huiler tous les rouages pour que cela se déroule comme il se doit, n'est-ce pas ?
Oui, alors donc nous, moi je suis donc la référente de la commission communication. Donc la commission communication, elle est composée de personnes qui sont déficientes visuelles, donc non-voyantes et malvoyantes. Il y a quelques voyants. Et ce sont toutes ces personnes-là sont des personnes qui sont adhérentes à la fédération, à la FAF-LR, puisque ça marche sur le principe d'une association où on cotise.
Voilà.
Donc après, quand on met en place des actions, alors on a deux types d'actions. On a des actions qui visent à faire connaître la FAF-LR à l'extérieur. Et après, on a des actions qu'on met en place nous-mêmes. Alors, je vais parler un petit peu des actions sur lesquelles on se greffe. Donc, par exemple, on a participé à la foire aux associations cette année. On a participé à des événements comme en février l'an dernier, il y a eu un projet mis en place par la préfecture qui s'appelle Différents comme tout le monde, qui concernait tous les collégiens de différents établissements. Et donc nous, on a participé en faisant des ateliers de sensibilisation au handicap. C'est le même principe qui se fait dans les écoles, c'est-à-dire qu'on a fait des ateliers de canne, des ateliers pour faire connaître le braille, des lunettes de simulation pour connaître les différents types de malvoyance. On a participé également, on a fait pas mal de choses, hein. On a, je dis le principal, et là, on a un projet qui va se mettre, on a une chorale, on a deux.
D'accord.
J'essaie de m'exprimer un peu mieux. On a deux chorales où il y a des déficients visuels qui sont choristes. Et ces déficients visuels sont adhérents à la Fédération des aveugles en biopes de France. Et ces deux chorales feront un concert le vendredi 14 novembre à la Maison des Chœurs. À 20h30.
La Maison des Chœurs qui se situe
Place Albert Ier. Donc l'accès en tram, c'est la ligne 1, station Place Albert Ier.
Albert Ier, oui.
Ou 4.
Ou 4,
ou
aussi,
4,
voilà,
exactement.
Ou la ligne 4.
Et c'est à 20h30. Hein.
C'est à 20h30. Et donc le principe, c'est pour faire connaître la FAF-LR. Et c'est aussi pour la participation est libre. Et donc tous les sous qui seront récoltés permettront de mettre en place des activités pour les déficients visuels adultes et enfants, et pour mettre aussi en place des actions pour faire connaître la FAF-LR. Voilà.
Très bien. Donc, et cette chorale, donc, elle est composée donc, de personnes en situation de handicap ou c'est une chorale comme ça de l'extérieur qui est venue.
Il y a deux chorales. Une chorale de Montpellier, je peux les citer ?
Bien sûr.
Donc il y a la chorale de Montpellier à tout cœur, dont je fais partie moi-même, et la chorale de Beaulieu, Polisson. Et parmi ces choristes, il y a quelques personnes qui sont déficientes visuelles.
Bon, mais très bien.
Et qui sont donc adhérentes à la FAF-LR.
Très bien. Si je peux me glisser,
bien sûr,
c'est quelque chose de très important dans les valeurs de la FAFELER, que cette idée que les personnes s'intègrent au maximum dans des activités de tout le monde. Hein. Et donc, l'idée n'est pas de faire une chorale de déficients visuels, mais que des personnes déficientes visuelles chantent dans des chorales de leur quartier ou de leur lesquelles chantent leurs amis, hein, voilà.
Très bien. Alors depuis le mois d'avril 2014 et ce jusqu'en octobre dernier, vous avez présenté ces travaux au Vigan, n'est-ce pas?
L'exposition photo.
L'exposition photo, oui. L'exposition je reviens sur la photo. Ouais.
Alors, elle a été présentée à Nîmes, à Alès,
à
Bessèges, évidemment, qui est le siège de l'association Information Recherche Rétinite Pigmentaire. Son planning est plein dans le Gard pour toute l'année 2015. Et là, notre projet l'an prochain va être de dupliquer cette exposition pour pouvoir la faire circuler dans l'Hérault. Puisque l'exemple de nos amis gardois montre qu'il y a une demande de la part des pouvoirs publics et il y a un intérêt de la part
du
public.
Voilà. Ah ben, justement, donc, est-ce que vous avez pu dresser un bilan, hein, parce que là, la dernière exposition remonte du 2 au 20 octobre à la médiathèque du Pays Viganais. Alors, est-ce que vous avez pu dresser un bilan et quel est justement le ressenti que vous avez pu percevoir au niveau de l'accueil qui a été réservé, que ce soit par le public ou, bon, là vous l'avez dit, hein, même les communes ont fortement participé.
Tout à fait. Ben, je crois qu'il y a, évidemment de l'étonnement parce que il y a un certain nombre de photos qui choisissent délibérément de montrer des personnes déficientes visuelles dans des activités inattendues ou dans des situations inattendues. Et puis il y a aussi bien sûr de la prise de conscience par rapport à un certain nombre de manques dans notre société qui quelquefois tiennent au pouvoir public et qui d'autres fois peuvent tenir aussi à des comportements plus ou moins citoyens. Hein. On peut penser notamment à tout ce qui entrave l'accessibilité physique et notamment la marche avec une canne blanche, hein, par exemple. Et donc il y a certaines photos qui illustrent ces questions du déplacement de la personne déficiente visuelle. Hein. Voilà, hein, ce sont des réactions de ce type, hein, de l'étonnement, et peut-être même parfois un peu d'admiration ou de perplexité d'un côté, et puis quand même aussi de la prise de conscience sur tout ce qui est encore nécessaire pour que l'égalité des droits et des chances ne soit pas qu'une expression inscrite dans la loi, mais aussi une réalité.
Oui, complètement. D'ailleurs, on aurait dû être en 2015 en matière d'accessibilité, au rendez-vous.
Absolument.
Bon, c'est reporté.
Ce ne sera pas le cas.
Mais c'est reporté. Mais oui. Bon, il faut garder espoir et rester positif de ce côté-là. Je pense que les consciences sont en train de mûrir. Des chiffres alors au niveau de la fréquentation depuis le mois d'avril au
alors
au
là
mois
non
d'octobre.
J'avoue que
ça vous avez
ça,
pas
ça,
eu le temps encore.
C'est une colle à la fois parce que je ne vais pas directement dans le Gard, je ne suis pas ça personnellement précisément, et ensuite parce que comme l'entrée est libre, c'est souvent dans des lieux publics pour mettre en valeur et pour que les gens aient plus l'occasion de se dire tiens, pourquoi je passerai pas 10 minutes à regarder un petit peu ça. Nous ne pouvons pas avoir de chiffres précis.
Hein, mais en tout cas, vu le succès qu'il y a eu dans le Gard, c'est ce qui vous motive de façon à ce que ça soit effectué dans l'Hérault.
Absolument. Et ça permet aussi de proposer, évidemment pas en continu, mais une ou deux fois dans chacun des lieux où l'exposition passe, des animations du type de celles dont parlaient Claudie et Chantal, où on propose aux personne de se mettre en situation ou d'échanger avec des personnes déficientes visuelles sur tel ou tel sujet qui les intéresse, hein, que ce soit la lecture du braille ou comment on fait la cuisine quand on ne voit pas et ainsi de suite. Hein. Et donc pour l'ATE, malheureusement, je n'ai pas encore de date à vous préciser, mais on espère qu'on pourra, dans les deux semaines où l'exposition sera présente à la médiathèque, organiser une demi-journée de ce type. Hein. Je rappelle que c'est donc du mercredi 12 jusqu'au 27, qui logiquement doit être un mercredi.
Donc du 12 au 27 novembre prochain à la médiathèque de l'ATE. Donc il y aura cette exposition photo. Et donc une rencontre avec le public et différents ateliers sont proposés.
Tout à fait. Oui, je me suis trompé. Donc c'est en fait du mercredi 12 au jeudi 27.
Très bien. Là, nous allons marquer une pause. Vous êtes sur FM+, sur le 91 MHz à Montpellier, son agglomération, du côté de Nîmes et de son agglomération. Vous pouvez vous joindre à nous via le 103.1 Radio Alliance+. On se retrouve juste après ceci. Nous sommes en compagnie de la FAF LR. En attendant donc cette seconde partie de votre magazine Montpellier, ma ville, laissons-nous emporter par la foule.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
vous êtes sur FM+, et vous faites bien aujourd'hui dans votre rendez-vous hebdomadaire Montpellier ma ville, votre magazine qui, comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir les temps forts de Montpellier et ses environs, que ce soit sur un plan économique, politique, social et culturel. Toutes les thématiques qui touchent votre quotidien peuvent être abordées. Aujourd'hui, nous donnons la parole à la FAF-LR, Fédération des aveugles et amblyopes de France en Languedoc-Roussillon. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Claudie Gasque, qui nous a fait part en première partie de son art, de son savoir-faire au niveau de la photo. En tant que malvoyante, elle pratique et fait pratiquer la photo à des personnes qui sont déficientes visuelles. Il y a également Chantal Bordenave qui se charge de la communication au sein de la FAF-LR, fait partie de la commission communication plus précisément, et elle nous a fait part à son tour de tout à l'heure de son savoir-faire, de tout ce qu'il faut donc pour organiser des événements accessibles pour tous et surtout pour les personnes qui relèvent d'une déficience visuelle, qui par une force de persuasion arrive à faire adhérer certaines structures à recevoir donc les différentes activités proposées. Elles sont accompagnées du président de la FAF-LR, Bertrand Vérine, qui se trouve juste à mes côtés. Et d'ailleurs, je me tourne vers vous, Bertrand Vérine. Alors, pour cette seconde partie, nous allons aborder un autre événement qui va avoir lieu le 4 décembre prochain, de 10h à 16h30. Toute une journée consacrée et organisée en vue de restituer une enquête qui a été menée par Bruno Gendron. La réalisation de cette enquête qu'il a menée concerne l'emploi des personnes déficientes visuelles. Alors Bertrand Vérine, pouvez-vous nous expliquer ce à quoi sert vraiment ce type de réalisation de cette enquête ?
Alors, ça c'est un projet qui a été voulu par notre fédération nationale et qui a été mis en œuvre en Languedoc-Roussillon, en région Rhône-Alpes et en Île-de-France pour essayer de se faire une idée plus juste des atouts et des freins des personnes visuelles par rapport à la question de l'emploi. Il y a quand même une situation très préoccupante de ce point de vue, hein, puisqu'on estime, mais c'est difficile à quantifier avec précision, à 50% le taux de chômage dans la population déficiente visuelle en âge de travailler, et ça pose évidemment des questions de ressources bien sûr, questions d'intégration sociale, et puis par rapport à nos activités, à nos actions de formation scolaire, de formation professionnelle, etc. Et de défense de la citoyenneté, évidemment, c'est une question très préoccupante. Et du coup, la fédération a obtenu le partenariat en particulier du Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique pour engager des stagiaires et réunir les conditions matérielles pour proposer à toutes les personnes volontaires un questionnaire sur leur lien avec la question de l'emploi, ce qui les satisfait s'ils ont un emploi, ou ce qui leur pose des difficultés dans leur emploi ou dans la recherche d'un emploi ou dans la formation professionnelle.
Alors, au cours de cette journée du 4 décembre, il y aura parmi vous tous, donc l'AGFIP. Je rappelle que l'AGFIP a pour mission, entre autres, hein, de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées. Alors, cette enquête, elle est prévue donc d'être remise à l'AGFIP.
Absolument. Elle a été remise à l'AGFIP nationale à Paris le 21 mai dernier, nous avons décidé de faire une restitution en Languedoc-Roussillon, d'abord en direction des personnes qui ont participé à cette enquête, parce que souvent on demande aux gens de participer et on ne leur dit pas finalement quelle conclusion on a tiré du travail mené. Donc là il y avait un devoir de réciprocité, hein, on avait besoin que les personnes acceptent de nous donner leurs réponses pour pouvoir ensuite en tirer des statistiques et les faire valoir auprès des pouvoirs publics, mais il faut aussi leur dire qu'est-ce que ça nous a révélé, à quoi ça peut nous servir. Et évidemment, sensibilisation aussi des acteurs locaux en charge de l'insertion professionnelle. Donc il y aura la présence du FIF dont je parlais tout à l'heure, de l'AGFIP dont vous avez parlé.
Le
fonds d'insertion, l'équivalent de l'AGFIP, mais pour la fonction publique.
Très bien.
Et évidemment, donc aussi la fonction territoriale, etc. Nous avons oublié, je crois, et c'est très regrettable de dire que nous étions reçus par le CRIP de Castelnau-le-Lez, qui est un organisme bien connu de formation professionnelle. En direction des personnes handicapées, hein, avec lequel nous allons ensuite développer d'autres partenariats. Nous avons évidemment invité des partenaires, des interlocuteurs de la Chambre de commerce et d'industrie, du mouvement des entreprises de France, le MEDEF.
Ils seront présents le 4 décembre.
Oui. Absolument, pour entendre et pour
tenir compte de cette enquête donc.
Et envisager des actions de sensibilisation de l'entreprise, hein, puisque ce qui sera montré, c'est que il y a, comme souvent, hein, dans les questions de handicap, il y a l'essentiel du problème vient d'une méconnaissance mutuelle, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément facile pour une personne déficiente visuelle de se représenter les conditions d'un travail en entreprise, et encore moins facile pour une entreprise de se représenter comment un collègue déficient visuel va pouvoir assumer ses fonctions. Or, de nombreux exemples le montrent, hein, et donc du coup le matin on aura essentiellement la restitution de l'enquête par Bruno Gendron qui l'a dirigée, et dont on peut signaler qu'il est maître de conférence en économie à l'Université d'Orléans,
mais
qu'il est surtout aveugle complet, hein, ce qui ne l'a pas empêché donc d'assumer ses fonctions d'enseignement et de recherche.
Bien au contraire.
Et puis ensuite, on aura trois témoignages de personnes dans différentes situations par rapport à l'emploi, hein, qui sont des adhérents de l'association à qui on a demandé de venir présenter leur expérience personnelle.
Au quotidien, d'accord.
Et l'après-midi, nous aurons la joie et l'honneur.
Mais on détaillera, permettez, dans un petit instant, donc tout le programme, hein, qui est riche, donc le programme de cette journée. Mais je voulais revenir sur. Je voudrais parler de Philippe Chazal, qui est auteur d'un ouvrage.
Tout à fait.
Qui a pour titre Témoignage de travailleurs aveugles, qui a été préfacé par Roselyne Bachelot. Bon, Roselyne Bachelot, on le sait, elle a été ministre, entre autres, de la Santé et des Sports, ministre de la Solidarité et de la Cohésion Sociale dans le troisième gouvernement Fillon, et elle avait en charge donc le dossier handicap en France, et que j'ai trouvé, bon, moi, ça c'est mon avis personnel, très actif sur le terrain, en tout cas, pour l'avoir rencontré lors des journées handisport à Roland-Garros en 2011, c'était une petite parenthèse. Alors, Bertrand Vérine, peut-on résumer donc l'ouvrage de... est-ce qu'on peut résumer l'ouvrage de Philippe Chazal à un seul mot, que lui-même dit défi. Alors je dis défi car lui-même le définit ainsi, hein, je le cite, défi, donc détermination, énergie, affranchir l'impossible.
tout à fait. Donc son propos, oui, d'abord il faut le présenter un tout petit peu, hein, Philippe Chazal, et lui-même un exemple puisque il est aveugle complet et qu'il a occupé des fonctions de direction d'établissements sanitaires et sociaux. Mmh. Hein. Il est particulièrement actif dans le secteur juridique pour la défense des droits des personnes déficientes visuelles. Naturellement, il a contribué aux négociations qui ont présidé à l'élaboration de la loi de 2005 et ensuite d'un certain nombre de ses textes d'application. Et il est président de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, qui est donc le comité d'entente de national des principales associations qui s'occupent de cette question. Et donc, il avait fait un ouvrage déjà il y a une dizaine d'années qui présentait des témoignages de travailleurs déficients visuels. Et il a voulu en faire un nouveau, à la fois pour sortir de nos frontières. Il y a des témoignages de déficients visuels du monde entier.
C'est très positif parce que l'ouvrage que je viens d'évoquer, c'est une suite de belles histoires qui laissent personne indifférent, en fait.
Absolument.
Parce qu'il relaye comme ça des récits de non-voyants qui sont très actifs, hein, qui sont guides de musées, créateurs de parfums, ou danseurs, ou maires de leur village. Donc ils émanent comme ça d'un haut fonctionnaire, d'un entrepreneur, d'un chanteur célèbre ou d'une présentatrice de télévision.
Ouais, en Espagne.
Ils sont surprenants et prouvent que le handicap n'est pas un frein, absolument pas.
Et à condition de se donner un certain nombre de moyens, et ces moyens commencent par la connaissance. Hein. Quand on réfléchit aux moyens de pallier le handicap, souvent on ne pense qu'aux moyens matériels, qui évidemment sont très importants, et dans le cas des déficients visuels, c'est vrai que l'informatique adaptée, par exemple, ou la vocalisation d'un certain nombre d'appareils joue un rôle fondamental, mais la connaissance humaine et les relations, les bonnes interactions, les bonnes pratiques qu'on va pouvoir établir avec des collègues voyants sont essentielles. D'où cette idée de témoignage qui est présente dans notre journée et qui évidemment est présente au premier chef dans l'ouvrage de Philippe Chazal, puisqu'il y a 80 témoignages de personnes avec cette idée d'explorer bien sûr un certain nombre de configurations relativement connues, hein, mais ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que il n'y a plus vraiment de métier d'aveugles ou de métiers pour les aveugles. Hein. Pendant très longtemps, les déficients visuels, selon leurs selon leurs aptitudes, avaient travailleurs manuels, c'était fabriquer des brosses ou des paniers et réparer des chaises, hein, rempailler des chaises ou des fauteuils. Avec des aptitudes plus scientifiques, c'était la kinésithérapie. Des aptitudes plus verbales, c'était être standardiste ou agent d'accueil. Et puis des aptitudes franchement intellectuelles, ça se tournait vers l'enseignement notamment. Hein. Ah oui, et j'oublie évidemment les aptitudes artistiques qui donnaient beaucoup d'organistes aveugles, en particulier à l'époque où chaque église avait son organiste et pouvait le payer, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui.
Oui.
Et du coup, on se rend compte dans la société d'aujourd'hui qu'il faut diversifier les métiers et que, à condition d'avoir un vrai projet, une vraie motivation et de se poser les bonnes questions pour l'adaptation du poste de travail, comme on dit de manière technique, ou pour l'adaptation de la mission aussi, parce que c'est vrai que quelquefois, et ça concerne plus le côté entreprise, une entreprise va se dire, moi le travail je le découpe comme ça, et il va y avoir 20% du travail prévu qui effectivement sera incompatible avec un handicap visuel. Mais il suffit de se dire qu'on remplace ces 20% par autre chose qui va pouvoir être accompli par la personne pour que ça puisse éventuellement marcher. Voilà, et c'est donc ça que Philippe Chazal a voulu montrer, avec des professions beaucoup plus inattendues. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, du métier d'impresario ou
danseur également.
Ah ben danseur professionnel.
Un créateur de parfum.
Absolument. Alors créateur de parfum. Une fois qu'on le sait, on peut se dire ah ben oui, évidemment, l'odorat peut être très développé chez une personne déficiente visuelle. Mais la danse, par exemple, qui est vraiment une activité qui suppose un sens de l'espace,
exactement,
etc. On croit que ça ne peut être lié qu'à la vue, et la preuve est faite qu'on peut y accéder par d'autres moyens.
Alors détaillons cette journée du 4 décembre. Alors donc ça démarre donc le 4 décembre, jeudi, de 10h à 16h30 non-stop. Alors
et on rappelle peut-être que le CRIP se situe à Castelnau, au 435 avenue Georges Frêche, chemin du Mas de Roche.
Ah oui, hein, bien sûr, ça on peut le préciser, bien
voilà.
Sûr. Alors on va détailler le programme. Alors le matin ça démarre à 10h, l'ouverture c'est vous qu'il a faite,
avec
Vincent Michel.
Collègue et ami Vincent Michel, président national, mais qui a aussi été mon prédécesseur à la FAFELER.
Très bien.
Et puis ensuite, donc, on passe la parole à
Bruno Gendron
pour présenter à la fois les résultats généraux de l'enquête, mais aussi pour faire un focus sur la région Languedoc-Roussillon, puisque en termes d'emploi, elle est assez particulière, hein, puisqu'il y a beaucoup moins d'industrie qu'en Rhône-Alpes ou en Île-de-France, par exemple. Et puis ensuite, nous avons nos trois adhérents qui viendront témoigner de leur expérience par rapport à l'emploi.
Hein. Très bien. Donc ça va occuper toute la matinée.
Absolument.
Après, en début d'après-midi,
nous avons la présentation par Philippe Chazal
de son ouvrage,
de ses défis, ses 80 défis relevés de par le monde, hein, par des personnes déficientes visuelles qui ont réussi à inventer des emplois inattendus. Hein. Et puis ensuite, nous avons
Daniel Ville.
Des partenaires impliqués concrètement dans ces questions. Donc Daniel Gilles, la directrice du CRIP, qui nous parlera de ses actions de formation. La plateforme Synergie.
Qu'est-ce que c'est au juste?
Alors la plateforme Synergie, j'ai un petit trou là, mais est une structure qui, comme son nom l'indique, c'est force de mettre en réseau des acteurs
les centres de formation
pour favoriser le maintien
au travail,
dans l'emploi, la reconversion, etc.
Hein. Bon.
Ensuite, évidemment,
l'AGFIP,
nous aurons l'AGFIP et son homologue moins connu qui est le FIF Fonction Publique, hein, mais qui a aussi un rôle important. Il faut rappeler que toutes les administrations ne sont pas encore suffisamment sensibilisées, et en particulier, tout comme les entreprises, un certain nombre d'administrations préfèrent soit payer leurs indemnités quand elles n'ont pas leur quota d'employés déficients visuels, soit même faire des pieds et des mains pour en être dispensés. Et on citera quand même l'Éducation nationale à ce titre, qui a réussi à se faire exempter de la pénalité pour non-respect du quota de 6% d'employés handicapés.
Et c'est là où on voit que la loi du 11 février 2005 s'effrite un petit peu, on va dire.
Sous l'influence des lobbies, et ça c'est un travail malheureusement que nous avons à prendre, les personnes handicapées, de même que de nombreux autres citoyens, à faire à savoir aussi faire du lobbying, parce que d'autres structures comme les entreprises ou les administrations font un lobbying extrêmement puissant et qui ne va pas toujours dans le bon sens.
Malheureusement. Alors pour ce jour-là, il y a quand même, vous avez pensé à mettre en place donc une navette de transport qui, à partir de la FAF LR,
pour nos adhérents, oui.
Exactement, uniquement réservée aux personnes déficientes visuelles.
Voilà, parce que le CRIP pose un problème d'accessibilité très concrète, vu que entre l'arrêt de tram et les locaux, il y a des voies de circulation, en particulier un rond-point. Qui reste problématique pour la traversée, donc on a voulu faciliter au maximum la vie à nos adhérents.
Chantal Bordena, vous avez voulu également nous faire part d'un autre projet, d'un nouveau projet peut-être ?
Ah oui, pardon. Oui, donc nous avons un projet, enfin l'an dernier nous avons assisté avec le Théâtre des 13 Vents à une pièce en audiodescription. Donc on a eu beaucoup d'adhérents qui se sont inscrits pour voir cette pièce. Et donc on s'est dit que ça serait bien qu'on essaye de faire quelque chose pour qu'il y ait plus régulièrement des pièces en audiodescription. Donc on a rencontré actuellement, ça s'appelle HTH, Humain Troupe Humain, c'est anciennement le Théâtre des 13 Vents. Donc on a rencontré deux personnes de HTH. Et donc il y a un projet qui se met en cours avec des étudiants donc dans le monde du théâtre.
Pour créer un spectacle ?
Il y a une pièce qui va se... pour mettre en place une pièce qui sera en audiodescription, mais prise en charge par les étudiants.
Voilà. Très bien.
Donc on doit les rencontrer prochainement, et on va discuter un peu, parce qu'ils ont plein de questions à nous poser sur l'audiodescription, et puis essayer de bâtir quelque chose autour de ce projet.
Très bien. Et donc ce projet verra le jour en 2015, 2016 ?
Mais pour l'instant, c'est prévu en 2015 une pièce qui
le 17 janvier,
fin janvier,
l'adaptation de Scènes de la vie conjugale, et qui va servir de test, d'expérience zéro, pour essayer ensuite d'élargir et de rendre ça pérenne, comme on dit, pour qu'il y ait un partage d'expérience entre les professionnels du théâtre humain trop humain, les étudiants d'art du spectacle de l'université Paul Valéry, et puis nos adhérents intéressés par le théâtre qui serviront non pas de cobayes, mais d'expérimentateurs et de partenaires de l'expérimentation pour qu'il y ait de plus en plus, au fil des années, de spectacles audio-décrits dans l'agglomération, puisque Humain Trop Humain espère ensuite aussi pouvoir proposer ses compétences aux autres théâtres de l'agglomération.
Et en espérant que ces autres théâtres puissent s'inspirer justement de ce travail afin que cela puisse se développer.
Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes déficientes visuelles qui sont très attachées à la culture et
qui
n'ont pas
sont
pour l'instant l'opportunité
d'aller voir. Ils en sont privés.
Tout à fait.
Eh oui. Eh bien merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes pas mal occupés en ce moment.
Merci à vous de nous avoir invités.
Et donc nous ne manquerons pas de venir et d'inviter tous ceux qui sont en notre compagnie chaque jour, donc de venir voir, je dis bien voir, tous ces travaux que vous menez avec force et conviction. Merci à vous Claudie Gasque.
Avec plaisir.
Merci Chantal Bordenave.
Merci beaucoup.
Merci à vous Bertrand Vérine.
Et j'espère à bientôt.
Avec grand plaisir. On se retrouve lundi 17 novembre pour un nouveau Montpellier Ma Ville, votre magazine qui vous fait part des temps forts de Montpellier et ses environs, que ce soit sur un plan économique, politique, social et culturel. Toutes les thématiques qui touchent votre quotidien sont abordées. Rendez-vous à lundi prochain, même heure, même micro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, c'est ma ville.
Montpellier, c'est ma ville.
Montpellier, ma ville.